Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur la politique logicielle libre d'Échirolles, une commune de 37 000 habitants environ de la banlieue grenobloise. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors j'ai le plaisir de recevoir via le logiciel libre d'audioconférence Mumble Aurélien Farge, qui est conseiller municipal délégué au développement du numérique à l'informatique et au logiciel libre de la ville, ainsi que Nicolas Vivant, directeur de la stratégie et de la culture numérique d'Échirolles. Bonjour, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Bonjour, oui, oui.
Oui, bonjour.
Eh bien, je vous propose de commencer de manière très classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, puis ainsi que la collectivité que vous représentez et pour laquelle vous travaillez respectivement ? Aurélien Farge.
Oui, bonjour. Alors déjà, merci de votre invitation pour cette émission. Donc, vous l'avez dit, hein, la commune d'Échirolles, c'est une commune qui est située donc au sud de l'agglomération grenobloise, une commune de 37 000 habitants, une commune de banlieue, certes, mais qui foisonne d'un dynamisme et d'une activité. C'est notamment le deuxième bassin d'emploi et le deuxième bassin économique de l'agglomération grenobloise et qui a également un fort taux d'associations sur le territoire. Moi, j'ai l'honneur d'être donc élu au développement du numérique, à l'informatique et au logiciel libre sur ce mandat dans la majorité donc du maire actuel Renzo Sully.
Très bien, merci. Nicolas Vivant.
Oui, bonjour. Donc moi, je suis le directeur de la stratégie et de la culture numérique de la ville d'Échirolles depuis le 1er février et auparavant, j'ai été le directeur des systèmes d'information de la ville de Fontaine, également dans l'agglomération grenobloise. Voilà, une de mes premières missions a été la rédaction d'un schéma directeur numérique pour la durée du mandat, comme un fil conducteur pour la durée du mandat pour ce qui concerne le numérique dans la ville.
Oui, on va y revenir sur ce schéma directeur. Alors, vous avez dit 1er février 2021, et effectivement, du coup, vous êtes arrivé récemment. Et puis, pour nos auditeurs et auditrices fidèles, vous avez mentionné votre ancien poste de DSI à Fontaine. Et en fait, vous nous aviez déjà fait le plaisir d'intervenir dans Libre à vous en janvier 2020. Voilà, on vous mettra le lien, bien sûr, en référence. Alors, avant qu'on rentre dans le dur de notre sujet, il y a une question que j'aime bien poser aux personnes qui interviennent dans Libre à vous. En une ou deux minutes, chacun, pour vous, c'est quoi le logiciel libre ? Comment vous définiriez ce qu'est le logiciel libre, Nicolas Vivant ?
Alors, le logiciel libre, pour moi, qui suis plutôt du côté technique de cette affaire, c'est avant tout quelque chose qui marche et quelque chose que je n'ai pas toujours connu, que j'ai découvert en arrivant justement à la ville de Fontaine. Et je dois avouer que ça a été une surprise pour moi de me rendre compte que le logiciel libre, que je connaissais sur la partie quand même serveur, infrastructure, hein, puisque bon, ça fait très longtemps que les logiciels libres sont utilisés sur la partie infrastructure des services informatiques. Là, j'ai découvert qu'en fait, y compris au niveau de l'interface utilisateur, il existait des outils, il existait des systèmes d'exploitation, il existait tout un tas de logiciels qui présentaient des avantages que n'avaient pas les logiciels propriétaires. Alors, il y a évidemment l'avantage de la gratuité, hein, qui est pour une collectivité territoriale quelque chose d'important. Faut pas oublier que les collectivités, nous sommes des centres de coûts, hein. On n'est pas des entreprises privées, on n'a pas de on fait pas de bénéfices évidemment, et que donc chaque coût évité est une opportunité de mettre en place un nouveau service sans impacter les gens au portefeuille. Donc ça c'est évidemment un avantage, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec la phrase « le logiciel libre n'est pas gratuit ». Moi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut aussi revendiquer, en tout cas pour ce qui concerne les collectivités. Mais surtout, je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien et qu'il y avait une dimension que j'avais complètement sous-estimée avant d'arriver à Fontaine, qui était l'interopérabilité et la possibilité d'interfacer les différents logiciels, de les faire fonctionner sur n'importe quelle plateforme. Bref, j'ai découvert en fait un univers de liberté et d'autonomie. C'est-à-dire que j'ai réalisé qu'on pouvait assez facilement faire monter en compétence une équipe qui se retrouvait du coup à faire vraiment de l'informatique et pas de la gestion de contrat ou de la gestion de sous-traitants. Et donc ça, c'est un plaisir partagé, évidemment, avec l'équipe quand on se retrouve à travailler sur des problématiques dont on a le sentiment qu'elles sont à la fois innovantes et utiles. Donc pour moi, le logiciel libre, ça a été vraiment un univers. Ça a été en même temps une prise de conscience que s'il n'était pas plus massivement adopté, au-delà du fait qu'il n'y avait ni publicité ni marketing autour du logiciel libre, c'est qu'il y avait un changement culturel à opérer. C'est-à-dire qu'il fallait que les gens prennent conscience des valeurs associées, mais surtout qu'ils prennent conscience de l'existence simplement des logiciels et de la façon dont on pouvait s'en emparer. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir stratégie, comment on pouvait aider les gens à prendre conscience de ça. Voilà. Donc le logiciel libre, pour moi, c'est cette richesse-là.
Super, merci beaucoup. Et je pense que ça vous fait une très belle introduction. Vous avez brossé plusieurs des sujets que nous pourrons aborder au cours de notre échange. Alors, du coup, je vais quand même vous relancer un tout petit peu ce qui me semble de mémoire. Vous allez pouvoir me corriger quand on avait échangé sur votre action à Fontaine. C'était justement dans le cadre de ce poste que vous avez. Enfin, vous n'étiez pas forcément libriste quand vous êtes arrivé DSI à Fontaine. Et c'est vraiment à cette occasion que vous avez pris conscience de ce que vous venez de développer, si mes souvenirs sont bons.
Oui, tout à fait.
Ok.
Et puis je suis arrivé à un moment aussi où notamment les distributions Linux et puis enfin les logiciels arrivaient à un niveau de maturité qui faisait qu'on pouvait s'en emparer quand même très facilement là où le libre auparavant souffrait encore un peu de cette image de trucs réservés aux ingénieurs en gros.
Entendu. Ok. Donc du coup, j'invite les personnes que ça intéresse. Voilà, on en avait parlé plus longuement. On avait parlé plus longuement donc dans cette émission de janvier 2020. Donc j'invite vraiment tout le monde à écouter cet échange que, enfin, dont je garde un souvenir d'un échange très intéressant. Aurélien Farge, du coup, même question pour vous. En quelques mots, c'est quoi pour vous le logiciel libre?
Oui, alors avec ma casquette d'élu, je dirais que pour moi, le logiciel libre et pour nous, collectivité d'Échirolles, le logiciel libre, c'est d'abord des valeurs qui sont communes, des valeurs qui sont partagées. Nous, on place notamment les valeurs d'éthique et de liberté très en avant au niveau de la ville d'Échirolles. Vous savez que les collectivités territoriales sont très attachées à leur liberté d'administration et cette valeur liberté, elle est partagée avec le logiciel libre. Notre objectif à nous, c'est la qualité de service qui est rendue aux usagers. Nicolas l'a dit, hein, ce que nous avons, nous, ce sont bien des usagers et des usagères et pas des clients, et nous sommes là pour répondre aux besoins de notre population à travers le service public. Ce service public, il fait aujourd'hui face à des situations qui sont de plus en plus complexes. Échirolles est une ville qui est une ville populaire, qui a un vrai dynamisme, mais qui est une ville populaire, qui rencontre parfois des situations sociales qui sont complexes. Et donc, on a besoin d'avoir un service public qui s'adapte. Et les outils qui sont au service de ce service public, si je peux m'exprimer ainsi, ont besoin aussi de s'adapter aux besoins de notre population. Et ça, c'est une possibilité qui est celle qui est offerte par le logiciel libre. Ensuite, je dirais aussi que le choix du logiciel libre, c'est aussi pour nous une opportunité, parce que en tant que majorité politique, et on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, en tant que majorité, on porte un programme pour lequel on a été élu, sur lequel il y a des valeurs qui sont fortes, la transition écologique notamment, les transitions démocratiques, et une fois encore, le logiciel libre répondait et était en capacité de venir en soutien de cette volonté que nous avons au niveau politique dans le programme pour lequel on a été élu. Et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix du logiciel libre sur notre commune. Donc, on a soutenu ce choix depuis plusieurs années déjà.
Très bien, merci beaucoup. Donc, bah, du coup, c'est pas, mais à vos propos introductifs, on l'aura bien compris que ce n'est pas un hasard que nous vous ayons invité pour nous parler de l'engagement d'Échirolles pour le logiciel libre. Alors, outre le parcours de Nicolas Vivant que nous avons mentionné, précisons que Échirolles a obtenu un label 4, 4 sur 5 à l'édition 2021 des territoires numériques libres et la mention spéciale du jury pour son excellente première candidature, jury dont est membre l'April. Et visiblement, cette donc moi, j'ai, en plus, j'ai représenté l'April dans ce jury, donc j'ai pu voir vos dossiers, un excellent dossier de candidature, enfin très très fouillé. Et de ce que j'ai pu voir, c'est qu'effectivement, cet engagement s'était particulièrement concrétisé en 2021, me semble-t-il. Et du coup, j'aimerais bien, pour commencer, voir avec vous donc le pourquoi de cet engagement, ce que vous avez commencé à développer, et puis comment il s'est construit. D'ailleurs, il est encore en construction, j'ai bien l'impression. Et puis alors, Aurélien, justement, vous aviez dit que ça faisait plusieurs années. Alors effectivement, Échirolles semble avoir semble être une municipalité assez stable politiquement. Alors Wikipédia me permet de voir que le maire actuel donc a été réélu effectivement en avril 2020, mais qu'il occupe cette fonction depuis 99. Alors du coup, moi je veux voir avec vous, Aurélien. Donc Lou, je ne sais pas si vous êtes nouveau conseiller municipal, si vous étiez là dans les mandatures précédentes. Est-ce qu'il y a eu un tournant en avril 2020 qui a fait qu'il y a eu une amplification vers le logiciel libre? Est-ce que c'est juste une concrétisation d'un travail antérieur, enfin d'un engagement antérieur? C'est juste que là c'est un peu plus visible. Voilà, qu'en est-il? Et puis je vais juste peut-être, et en fait je pense que ça va faire partie de votre question, souligner, et je trouve très intéressant l'intitulé de votre mandat, parce que vous n'êtes pas juste conseiller municipal délégué au numérique, mais délégué au numérique à l'informatique. Alors déjà, en plus, il y a peut-être une distinction entre les deux, mais on pourrait y revenir ou pas, et au logiciel libre, et c'est pas anodin, je pense, que ce soit dedans. Donc qu'en est-il? Voilà, est-ce que ça date d'avril 2020? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que c'est la continuité? Est-ce que vous pouvez nous dire plus, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Alors il se trouve que moi, mon premier mandat a été le mandat 2014-2020, où j'étais alors conseiller municipal délégué au développement du numérique. Effectivement, vous avez raison de le dire, sur ce premier mandat, il n'y avait pas informatique et logiciel libre. Néanmoins, on avait déjà en 2014 signé en tant que collectivité la charte du logiciel libre sur Échirolles. Donc on s'engageait à faire la promotion, ou en tout cas à privilégier le choix des logiciels libres dès 2014. Alors du travail a été fait déjà pendant ce mandat-là, parce qu'il y a un certain nombre de logiciels qui ont été installés, des logiciels qui ont été passés sur du libre. Je sais que la téléphonie a été passée sur du libre sur ce mandat-là, par exemple. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui avaient été faites. Néanmoins, c'est vrai qu'à la fin du mandat 2014-2020, on est arrivé à une réflexion dans laquelle il fallait qu'on ait une prise en considération beaucoup plus transversale. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu dans le nouveau mandat cette distinction entre informatique et numérique. Et je dirais que la création d'un poste de directeur de la stratégie numérique, c'est-à-dire d'un poste qui est en transversalité, n'est pas non plus anodine, parce qu'effectivement l'informatique, c'est ce qui est donc sous la DSI. Par contre, le numérique, ça concerne finalement un peu tous les champs d'action d'une collectivité territoriale. Ça concerne bien évidemment l'éducation, ça concerne l'administration générale, ça va concerner la jeunesse, ça va concerner l'action sociale, etc. Et c'est cette prise en considération de cette transversalité qui nous fait d'abord modifier, si vous voulez, la délégation qui m'est attribuée par le maire en développement du numérique, informatique et logiciel libre, et ensuite qui nous fait choisir d'avoir un poste de directeur de la stratégie numérique qui est occupé par Nicolas, dont le rôle, en plus d'avoir un lien privilégié avec l'informatique et les équipes, bien évidemment, mais de travailler en transversalité avec l'ensemble des services de la ville pour cette prise en considération du numérique.
Super. Et on sait l'importance, hein, pour quand une collectivité décide de s'engager vers le libre, d'avoir une action conjointe et solidaire entre les instances élues et puis les agents opérationnels, hein, pour dire les choses simplement. Donc du coup, là, c'est ce qui se produit à Échirolles. Et alors du coup, concrètement, comment s'est passé le recrutement de Nicolas Vivant? Vous l'avez directement sollicité, vous avez ouvert un poste et du coup, Nicolas Vivant, vous avez vu cette cette proposition et ça vous a intéressé. Comment c'est présenté? Parce que, comme on l'a dit, voilà, Nicolas Vivant était... Alors, pour revenir très rapidement, mais Nicolas Vivant, effectivement, DSI à Fontaine, a fait une migration, enfin, a opéré un vrai engagement pour le logiciel libre, mais c'est quelque chose qui était, on va dire, connu. Enfin, ça a été... pardon. Vous avez beaucoup, Fontaine avait beaucoup communiqué là-dessus. Fontaine était une référence de migration réussie. Donc Nicolas Vivant avait peut-être un peu cette aura-là. J'imagine que ça a pu jouer. Et du coup, voilà, bon, pour revenir à ma question, comment s'est passé ce recrutement? L'un ou l'autre, je ne sais pas quand, qui souhaite l'évoquer ce passif.
Alors, je peux répondre, hein, parce que c'est un recrutement qui s'est passé. Oui, c'est un recrutement qui s'est passé tout à fait classiquement dans la fonction publique, hein, donc avec une ouverture de poste qui a été publiée, suivie d'un jury. Il se trouve que Nicolas a répondu à cet appel à candidature et correspondait finalement à ce que l'on souhaitait porter, parce que il a su se positionner justement sur cette vision transversale du numérique qu'on attendait. C'était vraiment le premier point parmi d'autres, mais sur lequel on attendait, c'était cette capacité de porter une vision en transversalité, de savoir un peu prendre de la hauteur sur le sujet pour pouvoir agir sur tous les leviers disponibles. Mais en tout cas, il n'y a pas eu, même si on est très content que Nicolas, qui effectivement est connu et reconnu, soit aujourd'hui dans notre collectivité, mais en tout cas, ça a été une ouverture de poste et un recrutement assez classique pour la collectivité.
D'accord. Et de votre côté, Nicolas Vivant, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet? Parce que c'est plus le même métier, du coup, même s'il y a, j'imagine, des ponts entre DSI et directeur de la stratégie de la culture numérique.
Alors, ce que j'ai trouvé très, très intéressant dans ce poste, c'est justement qu'il y avait un travail qui avait été fait en transversalité au niveau des élus. Une réflexion donc à 6 ou 7 élus, je ne sais plus exactement, mais il y avait un groupe numérique des élus qui s'était créé pour travailler spécifiquement sur cette problématique du numérique. Et donc ça veut dire qu'il y avait il y a depuis le début de ce mandat un portage très fort de l'équipe des élus sur cette problématique-là. Donc si vous voulez, moi, quand je quitte Fontaine après 12 ans, parce que ça fait 12 ans et que j'ai envie de changer d'air, mais aussi parce que ce poste est une opportunité vraiment très intéressante et rejoint l'engagement qui était le mien sur la stratégie possible de déploiement des logiciels libres. Donc répondre, si vous voulez, à ce travail en transversalité qui avait été fait par les élus, avec un travail en transversalité réalisé par les services, ça me semblait être quelque chose d'efficace pour travailler sur du numérique libre de façon un peu innovante et puis d'y aller, quoi, voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Vous savez, quand je suis arrivé, Aurélien Farge et les autres élus venaient de finaliser une feuille de route donc avec des orientations politiques, un document de 6 ou 7 pages qui était parfaitement positionné, c'est-à-dire qui se positionnait vraiment en termes de valeurs, en termes de priorités au niveau politique. Et donc ça a été agréable d'arriver comme ça dans un environnement avec des orientations déjà très bien définies et ça a facilité évidemment la déclinaison opérationnelle après de ces orientations.
Ok, et alors du coup, vous devancez ma question suivante, c'est-à-dire que je me demandais, voilà, vous êtes arrivé en février 2020 et je voulais avoir un petit peu quel était l'état des lieux que vous avez fait en... Quel état des lieux vous faisiez en 2021? Donc déjà, sur le projet politique, ça a l'air, vous aviez l'air tout à fait aligné, et j'imagine que ça a pu vous inciter d'autant plus à chercher à obtenir ce poste. Et du coup, techniquement, enfin, où on était la ville des Chirolles, d'un point de vue, voilà, DSI par rapport au logiciel libre? Et du coup, comment c'est construit par ailleurs? Parce qu'en fait, c'est aussi vers ça que se tourne notre conversation, puisque vous mentionnez le schéma directeur sur lequel vous avez pu travailler, j'imagine, dès votre arrivée. Voilà, comment le schéma directeur s'est construit à partir de là?
Alors, le schéma directeur, il est la résultante de trois choses, de ses orientations politiques, cette feuille de route qui avait été formalisée par les élus, mais aussi par un travail qui avait été lancé en septembre 2020 et réalisé par un cabinet extérieur sur le numérique dans la ville, et qui avait là aussi donné un certain nombre d'orientations possibles ou de qui avait soulevé un certain nombre de problématiques. Je pense notamment à la problématique de la fracture numérique en interne, qui est quelque chose qui est rarement mis en avant dans ce genre d'études. On connaît la problématique de la fracture numérique avec en gros les 17% d'électronisme qu'on retrouve un peu partout, hein, et Chirol n'échappait pas à à ce constat. Mais il y avait en plus un travail fait en interne au niveau des agents et tout ça qui m'a paru très intéressant. Et donc le schéma directeur repose sur trois piliers, ses orientations politiques, ce rapport réalisé par un cabinet, et puis un périmètre défini par la Direction générale des services, qui nous demandait de travailler aussi bien à destination des usagers, des habitants, des partenaires économiques, des partenaires associatifs, et puis évidemment en interne. Donc voilà mes trois piliers, un périmètre très bien défini par la DG, des orientations politiques claires et un bilan du numérique dans la ville. Et c'est de ça que je suis parti pour réaliser ce travail qui a été validé donc à l'unanimité des conseillers municipaux d'ailleurs début novembre en conseil municipal.
Très bien. Et alors peut-être justement, ça peut être intéressant, parce que ça peut nous paraître évident ce qu'est un schéma directeur, en fait ce n'est peut-être pas tant que ça. Est-ce qu'on peut peut-être détailler ce qu'est un schéma directeur, la place que ça occupe en termes de politique publique au niveau des collectivités, et puis quelle est l'importance, pourquoi finalement c'est important de formaliser une politique publique, notamment une politique publique tournée vers le logiciel libre, dans ce genre de document?
Oui, moi je peux donner
Aurélien Farge, oui.
quelques éléments. Oui, un schéma directeur, en fait, c'est un plan d'action que l'on définit pour les prochaines années. Donc, Nicolas a déjà donné quelques éléments en disant qu'il y avait des orientations politiques qui étaient fixées dedans. Alors, il s'agit de grandes orientations, mais également donc un périmètre d'action qui a été défini. Et il s'agit, si vous voulez, de à la fois d'allier, si vous voulez, des grands axes de travail sur lesquels on souhaite aller, et finalement des actions qui sont extrêmement concrètes. Ce schéma directeur, effectivement, il contient la question des logiciels libres et l'engagement que l'on a autour des logiciels libres, mais il est plus large que ça. Il prévoit également un plan d'action, si vous voulez, contre la lutte contre la fracture, contre les fractures numériques, que ce soit à destination de nos habitants et habitantes, ou que ce soit dans le cas des agents et agentes du service public qui peuvent la rencontrer parfois. Il prévoit également des actions à destination des associations. C'est le cas notamment d'un site web gratuit qui a été proposé récemment aux associations échiroloises à travers l'outil WordPress notamment. Il prévoit les actions que l'on souhaite mener, notamment dans le cadre de la transition énergétique, avec la question de la sobriété énergétique des équipements numériques que l'on utilise, mais plus largement comment le numérique est en capacité d'accompagner finalement ces transitions-là. Et il prévoit aussi des actions, je ne vais pas toutes les faire, le document est assez conséquent, mais des actions dans le cadre de la transition démocratique et du renforcement de la participation citoyenne locale que nous, on a intitulé la fabrique citoyenne sur Échirolles. Donc c'est un document qui est très complet et qui part, si vous voulez, d'un état des lieux, d'orientation politique, de grands axes de travail, et qui décline finalement sur plusieurs années l'orientation et le travail que l'on souhaite mener en matière de numérique, d'informatique, de logiciels libres sur tous ces sujets-là. Et je dirais que c'est extrêmement important. D'abord, c'était pour nous un enjeu démocratique, parce que le présenter en conseil municipal, et Nicolas a dit qu'il avait été effectivement voté à l'unanimité, ce dont on se réjouit bien évidemment. Le travail était d'abord démocratique, c'est-à-dire que l'ensemble du travail que l'on va mener sur la thématique du numérique a été partagé publiquement. Avec l'ensemble des conseillers municipaux, mais également à destination de la population, parce que tout le conseil municipal est retransmis en direct à la ville d'Échirolles. Et ensuite, c'est un enjeu parce que ça permet finalement à tout le monde de savoir où on va. Et du coup, les services connaissent et les agents et agentes savent quels sont finalement les objectifs pour les prochaines années. Les élus savent aussi quels sont ces objectifs-là. Et la population, ça permet aussi de rendre compte en disant on est parti de tel point et on est arrivé ici. Et voilà ce qu'on avait décidé d'effectuer sur ce mandat. Et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà un peu pour les éléments que je pourrais donner sur ce que c'est qu'un schéma directeur du numérique à Échirolles, étant entendu que des schémas directeurs peuvent en être faits sur d'autres sujets d'intervention des collectivités territoriales.
Super, merci, c'était très clair. Écoute, ce que je vous propose avant qu'on rentre peut-être justement un peu plus dans les détails de ce qui a pu être fait en interne, à destination aussi des usagers et des usagères, enfin des habitantes et habitants d'Échirolles, de faire une courte pause musicale. Nous allons écouter Essaouira par Amin Maxwell. On se retrouve dans un peu moins de 2 minutes. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Venons d'écouter Essaouira par Amin Maxwell, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0. Vous pouvez retrouver une présentation de l'artiste et du morceau sur le site auboutdufil.com. Et puis je vais en profiter justement pour remercier ce site qui nous permet de faire énormément de découvertes musicales libres et qui est une grande aide du coup pour préparer Libre à vous. Voilà, je vous invite fortement à aller faire un tour sur auboutdufil.com.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Alors nous allons poursuivre notre discussion. Nous discutons donc avec Nicolas Vivant, directeur de la stratégie de la culture numérique d'Échirolles, et Aurélien Farge, qui est conseiller municipal délégué au développement du numérique, à l'informatique et au logiciel libre de la ville. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm. Bouton de chat. Donc Aurélien Farge et Nicolas Vivant nous présentaient, on va dire, les motivations politiques de l'engagement d'Échirolles pour le logiciel libre, et ainsi que le document, enfin le schéma directeur de la ville qui a été voté en novembre 2021 et qui pose, voilà, les bases de cet engagement. Du coup, je vous propose de rentrer un peu peut-être dans les détails de ce qu'Échirolles est en train de mettre en place. Peut-être commencer du coup par au niveau des équipes techniques qui sont, j'imagine, parmi les premiers acteurs et actrices de la concrétisation de ce plan d'action. Donc déjà, quelle était la situation 2021, qu'en était maintenant et quels sont les projets, voilà, en termes tout simplement d'infrastructures techniques, que ce soit déjà au niveau des serveurs et puis au niveau des postes de travail et puis au niveau de la culture, on va dire, logiciel libre au sein des équipes techniques qui sont tout à fait convaincu du logiciel libre, est-ce qu'il faut encore travailler là-dessus? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Nicolas Vivant, peut-être.
Alors, il y avait un certain nombre de choses déjà qui avaient été faites effectivement quand je suis arrivé. Donc, la téléphonie était passée sur une solution Xevo, la messagerie était passée sur une solution BlueMind. Donc, il y avait déjà un certain nombre de choses qui avaient été faites. Ce que j'essayais d'apporter et ce que j'essaie toujours d'apporter, c'est deux choses. C'est à la fois une méthodologie, une façon de procéder. Et en même temps, un changement culturel a opéré quand même dans le service informatique, parce qu'il y a une problématique dont on parle rarement quand même, mais qui est la problématique de la formation. La plupart de nos informaticiens sont biberonnés au logiciel propriétaire, et donc le changement culturel, il n'est pas seulement à opérer au niveau de nos agents ou de notre population, mais également au niveau du service informatique. Et ça passe par c'est un changement culturel, donc ça passe par une approche très progressive et très douce. Il faut bien réaliser que personne n'a jamais réclamé les logiciels propriétaires et personne n'a jamais mis en avant le fait que regardez notre logiciel de messagerie ou notre serveur de fichiers, c'est un serveur Microsoft. En fait, on met pas en avant ce genre de choses-là. La force des logiciels propriétaires, c'est qu'ils ont réussi à s'imposer comme une évidence. C'est-à-dire que aujourd'hui, un annuaire informatique, dans c'est quasiment un synonyme de Active Directory dans l'esprit des gens. Et ça, c'est pas passé par de la publicité à la télévision. C'est nos informaticiens ont été formés comme ça. Et passer au-delà de ça, c'est quelque chose qui nécessite de faire tomber un certain nombre de barrières, de faire preuve de curiosité, de voilà. Donc la méthodologie, ben, typiquement sur la prise en compte des services, puisque quand même l'objectif, c'est d'abord que les gens puissent bosser, qu'ils puissent bosser efficacement, évidemment. Bon, ben, quand on a une demande d'un service pour un nouveau besoin informatique, la façon qu'on a de la prendre en compte, c'est de se dire, bon, est-ce que j'ai déjà un logiciel en interne qui permet de répondre à cette demande? Si oui, évidemment, on va l'utiliser. Sinon, est-ce qu'un logiciel libre permet de répondre à ce besoin? Et s'il n'y a pas de logiciel libre qui permet de répondre à ce besoin, est-ce qu'un logiciel propriétaire permet de répondre à ce besoin? Et si aucun logiciel ne permet de répondre à ce besoin spécifique, alors on envisage un développement en interne. Donc ça, c'est un exemple de méthodologie pour la prise en compte, par exemple, de demandes de nouveaux logiciels. Sur le déploiement des postes clients, même chose. On essaie, c'est quelque chose qu'on fait très progressivement avec une méthodologie que j'avais déjà mise en œuvre à Fontaine et qui a pas trop mal fonctionné. Et progressivement, à la fois parce que c'est un changement culturel à opérer au niveau des agents, mais parce que aussi, au sein du service informatique, il faut qu'on prenne le temps de monter en compétence sur la distribution de Linux qu'on déploie et que tout ça se fasse sans à-coups et en minimisant les efforts de formation nécessaires.
Très bien. Et du coup, excusez-moi, deux questions se croisent dans mon esprit, mais je pense qu'on reviendra peut-être après sur, parce que vous avez abordé la question de la commande publique, qui me paraît effectivement importante. Je voulais juste mentionner aussi que vous avez cité, peut-être que vous le ferez encore, citer des outils comme Xevo, comme BlueMind. Pour les personnes que ça intéresse, on mettra les références sur le site. Donc voilà, n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. Et alors du coup là, donc ça évolue, la culture libriste se développe, j'imagine, au sein des agents. Il y a encore et au niveau du coup, en dehors des cercles, enfin des équipes techniques, qu'en est-il un peu de la réception de ce qu'est le logiciel libre plus globalement pour les agents de la municipalité?
Alors, la réception on est vraiment au tout début du
Oui,
passage.
il faut le rappeler, hein, le schéma directeur date de novembre 2021, donc effectivement, vous entamez vraiment le travail, là, j'imagine.
C'est ça. Donc sur la partie logicielle, les gens ne mesurent pas vraiment. Vous savez, ils font pas vraiment la différence entre un logiciel propriétaire et un logiciel libre en réalité. Ils s'attachent aux services rendus par le logiciel, mais le reste, c'est vraiment une préoccupation qu'on a nous en interne, mais auxquelles les gens sont peu enfin, s'intéressent peu à ça, en fait. C'est pas un sujet pour eux. En revanche, sur le poste de client, là, les choses sont un petit peu différentes. D'où l'importance de travailler sur le déploiement d'une distribution qui minimise le changement pour les gens. En fait, il faut que pour les gens, la différence soit pas évidente entre l'avant Linux et l'après Linux. Faut pas oublier que, si vous voulez, l'objectif, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Linux devienne une évidence comme Windows est devenu une évidence pour les gens. C'est-à-dire que moi, une chose dont j'étais très heureux à Fontaine, c'est quand les utilisateurs qui appelaient le service informatique, on leur demandait s'ils étaient sous Windows ou sous Linux, et ils ne savaient pas nous répondre. Voilà. Ça, c'est un motif de fierté pour moi. Parce que ça veut dire que le travail de mise en place de Linux, il avait été correctement effectué. Les gens ne savaient pas, en fait, s'ils étaient sous Linux ou sous Windows. Et c'est très bien comme ça. Un changement culturel, c'est pas quelque chose qui s'opère à coup de communication et de revendication. C'est quelque chose qui doit s'opérer tranquillement, lentement et efficacement. Quand vous avez une machine qui fonctionne et qu'elle répond à votre besoin, vous ne posez pas la question de la machine sur laquelle vous êtes. Et donc, la stratégie de déploiement typiquement de Linux, qu'on a démarré donc ici au mois de septembre, ben, typiquement, elle est passée d'abord par une appropriation par le service informatique d'une distribution qui nous semblait la mieux adaptée pour s'intégrer dans notre système d'information tel qu'il est, à la fois qui permettait aussi de s'adapter à un environnement hybride, parce que c'est une, quand je dis hybride, c'est-à-dire à la fois avec du Microsoft et du Linux, parce que c'est une migration qui prend du temps, et donc il faut que pendant toute cette période de migration, les choses se passent sans difficulté. Donc voilà, et puis ensuite il y a ce travail sur l'ergonomie, sur l'intégration dans le système d'information, avant de partir sur une phase de test avec un certain nombre d'utilisateurs choisis et volontaires. C'est la phase dans laquelle on est en ce moment, là. Donc là, on est dans une phase vraiment de bêta-test et de comment dire, de perfection de notre distribution pour s'assurer que toutes les problématiques sont bien prises en compte. Et puis on va entamer là, premier trimestre 2022, donc très bientôt, un appel à volontariat pour que les gens en interne qui souhaitent passer sous Linux puissent choisir de le faire et qu'ils aient un niveau de support qui soit équivalent à celui qu'on pouvait fournir sur les postes clients jusqu'à maintenant. Cette approche très douce permet donc à l'équipe de monter en compétences et permet à Linux, si vous voulez, de rentrer dans le paysage, dans la ville, de façon comme ça très sans à-coup, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des postes Linux qui vont naître, qui seront sur lesquels les gens vont travailler, ce sera un problème pour personne, et donc voilà, ça va naître dans le paysage. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est que Linux devienne un sujet dans un premier temps, pour qu'à la fin, ce ne soit plus un sujet finalement.
C'est intéressant ce point sur la transparence de l'outil qui doit presque être indifférent pour tant qu'il répond finalement aux besoins. Et alors du coup, il y a une compréhension sur le pourquoi le changement, finalement, puisque il y a une compréhension des motivations de ce changement ou ce pas remis en cause.
Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir répondre à la question si elle nous est posée.
Oui.
Si on nous pose la question de pourquoi le changement, de pouvoir y répondre. Mais en fait, on nous pose très rarement la question.
D'accord. C'est parce que du coup, le changement est bien fait, du coup, c'est que ça n'empêche pas le travail, comme vous l'évoquiez, quoi.
Oui, puis je suis attaché au fait qu'il y ait un petit plus pour les gens qui passent sous Linux, qu'ils aient accès à un certain nombre de fonctionnalités ou de petits outils ou de gadgets qui sont pas forcément disponibles sur Windows. Et donc ça joue beaucoup aussi dans le choix des gens. C'est-à-dire que l'ergonomie est simple, l'outil enfin l'interface est belle et je peux faire des choses que mon voisin sous Windows peut pas faire. Et donc ça, c'est un facteur déterminant plus que le choix des valeurs. Le choix des valeurs, si vous voulez, c'est ce qui porte le projet globalement. Et évidemment, quand on nous pose la question, on est capable d'y répondre. Mais c'est pas avec des valeurs qu'on convainc des gens, en fait. Les gens disent ça marche très bien jusqu'à maintenant, pourquoi changer, quoi? Donc pourquoi changer? Parce qu'on vous propose quelque chose de mieux. Voilà. Les valeurs, c'est pas Microsoft a pas mis en comment dire a pas mis en avant les valeurs du capitalisme pour vendre Windows, hein. Ils ont mis en avant les fonctionnalités. Ben c'est ce qu'on fait. Un changement culturel, ça s'opère comme ça, de façon en s'appuyant sur ce qu'attendent les gens, disons, et pas sur la volonté politique qui sous-tend le changement, quoi.
Et du coup, c'est vrai que la chose qu'on met beaucoup en avant avec le logiciel libre, c'est que structurellement, il permet d'être beaucoup plus, enfin, de s'adapter au mieux et au plus près des besoins des personnes, enfin, aux besoins de travail des personnes qui sont finalement les plus à même de connaître leurs besoins et de les définir. Est-ce que vous êtes aussi dans cette optique, peut-être plus à moyen long terme, je ne sais pas, de former les agents et agentes publiques pour qu'elles sachent et pour qu'elles soient en mesure, voilà, de mieux exprimer aussi leurs besoins en termes d'adaptation des outils, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre approche, dans votre procédure?
Alors, pas particulièrement sur les postes clients. Sur les postes clients, l'objectif, c'est vraiment de minimiser l'effort de formation. Gérer une bonne gestion du changement, encore une fois, c'est autant que possible un changement, enfin, le plus transparent possible. Donc, j'ai montré un terminal Linux à un utilisateur. C'est exactement la même chose que de lui montrer les lignes de commande sous Windows. C'est quelque chose, pour eux, c'est un truc d'informaticien, ça les intéresse pas du tout, et voilà. Donc il n'y a pas d'effort de formation particulier sur le passage à Linux.
D'accord.
Mais ça nécessite par contre un gros gros travail en amont. Je veux dire, pour ne pas avoir à fournir cet effort-là, ça veut dire que il faut qu'on soit à l'écoute de nos utilisateurs et que ce qu'on leur propose correspond parfaitement à leurs besoins. Et à ce moment-là, il y a quelques petites subtilités sur lesquelles on insiste au moment de la remise du poste, mais pas au-delà.
Et moi, je voudrais souligner, vous n'êtes pas obligé de réagir, mais si vous le souhaitez, bien sûr, faites-le, souligner quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et remarquable à Échirol, et donc du coup, dans votre dossier de candidature, puisqu'on parlait des territoires numériques libres, vous avez une action sur les postes de travail, mais vous intégrez aussi, vous n'avez pas négligé les systèmes d'exploitation, parce que souvent, on a l'impression que c'est une absence, un travail sur migration aussi des systèmes d'exploitation, qui est d'autant moins facile, j'imagine, comme changement, et qui me semble du coup quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment l'ensemble du poste de travail, pas seulement certains logiciels, qu'ils soient métiers ou plus généraux, qui doivent être, sur lesquels il faut agir, quoi.
Oui, et en fait, ça se fait d'autant plus facilement qu'on a commencé à travailler sur les logiciels. Quand votre navigateur par défaut, c'est Firefox, que votre client de messagerie par défaut, c'est Thunderbird, que votre logiciel bureautique par défaut, c'est LibreOffice, le passage à Linux est quasiment transparent, puisque les gens retrouvent les outils auxquels ils sont habitués. Et donc, au-delà de... Enfin, si l'interface graphique reste proche de ce qu'ils ont connu, c'est quelque chose qui se passe bien. S'il fallait tout changer d'un coup, si on passait d'un coup de Microsoft Office à LibreOffice, de Edge à Firefox et en même temps de système d'exploitation, ce serait problématique. Mais le système d'exploitation, c'est vraiment ce qu'il faut changer en dernier. Enfin, moi, alors le travail était déjà fait à Échirol, hein, mais si je devais repartir de zéro dans une commune qui repose entièrement sur des logiciels propriétaires, je commencerais d'abord par travailler sur les logiciels bureautiques avant de changer le système d'exploitation.
Entendu, oui, la démarche progressive que vous évoquiez du coup. Alors je vois notamment aussi que vous avez recruté, j'ai l'impression pas mal recruté en interne pour donner, j'imagine, pour porter et concrétiser le schéma directeur. Alors j'avais une question d'un auditeur fidèle de l'émission qui demande comment on recrute des libristes, parce que du coup j'ai l'impression que c'était aussi une problématique, c'était de faire venir des talents, enfin des personnes qui connaissent aussi le monde du libre et qui sont capables d'agir. Donc comment on recrute des libristes, et puis qui demande aussi à l'inverse quels conseils pour des libristes qui cherchent à être embauchés dans des collectivités notamment qui œuvrent pour le libre. Et il me semble d'ailleurs que vous cherchez à recruter une DSI si je ne me trompe pas.
Oui, alors le passage au libre dans une commune, c'est un projet qui va bien au-delà du service informatique. Et donc le recrutement, évidemment, tient une part importante. C'est un point sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Ça passe par un travail avec la direction des ressources humaines, évidemment, et par une réécriture ou une petite modification des profils de poste pour s'assurer que l'appétence, on va dire, pour les logiciels libres fait partie des critères dans le recrutement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment de communiquer sur ce que fait la commune pour que, parce que bon, on n'est pas dans un milieu gigantesque non plus, et les gens savent qu'en postulant à Échirolles ou à Fontaine, on va être particulièrement attentif sur les compétences qu'ils ont pu développer sur les logiciels libres. Donc c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Moi, je suis assez attentif sur le poste de DSI dont vous parliez, qui est ouvert là jusqu'au 4 février dans la commune. On a fait apparaître clairement dans les priorités l'appétence pour les logiciels libres du candidat. Donc ça fait partie effectivement des critères. Si on est face à quelqu'un qui n'a aucune compétence là-dedans, toutes choses étant égales par ailleurs, on lui préférera quelqu'un qui a déjà une expérience sur les logiciels libres. C'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Après, c'est des postes qui sont assez attrayants, hein, parce que généralement, qui dit logiciel libre dit justement autonomie, dit travail de réflexion sur la mise en place des logiciels et tout ça. Et c'est quelque chose qui est plutôt attirant pour un informaticien. La plupart des informaticiens préfèrent travailler sur ce type de problématique-là que sur de la gestion de contrat.
Oui, on s'en doute. Et puis, je crois que mon collègue le dit souvent, c'est que le logiciel libre, c'est ce qui permet le plus d'exprimer l'expression de la créativité et de l'intelligence par rapport à des logiciels, effectivement, qui restreignent, que ce soit par des contrats ou par un cadre technique beaucoup plus rigide. Donc oui, on imagine que c'est beaucoup plus stimulant, en tout cas, comme poste. Peut-être, alors, sauf si vous avez des choses à compléter, je vous propose de passer sur un autre pilier que vous aviez mentionné, qui est plutôt du coup tourné vers les citoyens et citoyennes d'Échirolles et l'action, la politique publique qui est donc à leur destination par rapport aux libertés informatiques. Rolia Farge, peut-être, est-ce que vous souhaitiez vous, qu'est-ce que vous auriez à nous dire là-dessus?
Oui, je peux vous dire pas mal de choses. Il faut savoir qu'à Échirolles, on est porteur depuis le début de ce mandat d'une démarche qu'on a surnommée la fabrique citoyenne. La fabrique citoyenne, c'est quoi? C'est la volonté que l'on a de donner un coup d'accélérateur à la participation citoyenne locale. On a une histoire de participation citoyenne, de démocratie participative. Néanmoins, si vous voulez, les schémas de participation citoyenne ont besoin d'être constamment réinventés pour permettre la participation du plus grand nombre, et la situation sanitaire qu'on a traversée n'a pas aidé à ce niveau-là. Et le numérique est complètement inscrit, si vous voulez, dans cette fabrique citoyenne sur Échirolles, comme accompagnateur finalement de la démocratie participative, parce qu'effectivement il est en capacité de fournir des outils. Je donne qu'un seul exemple, hein, c'est la retransmission en direct du conseil municipal, ou la possibilité de faire des retransmissions en direct via notre serveur Peertube qui a été mis en place par les équipes, mais ça peut aller du simple sondage, de la consultation, ou à des choses qui sont beaucoup plus complexes. Et le numérique s'inscrit également dans cette fabrique citoyenne, dans ce que l'on appelle finalement la mise en débat du numérique auprès des citoyennes et des citoyens. Et on l'inclut un petit peu aussi, si vous voulez, dans ce qu'on appelle l'inclusion numérique, donc la lutte contre la fracture numérique, parce qu'on sait que le numérique pose des débats et des questions aujourd'hui qui sont dans la société, que ce soit sur la question de la protection des données, que ce soit sur la question du libre consentement, que ce soit, voilà, tous ces sujets-là qui finalement sont des sujets qui peuvent être parfois assez complexes, ou en tout cas, mais qui touchent en tout cas le quotidien de nos habitantes et de nos habitants. On a décidé sur la durée de ce mandat, et ça figure dans le schéma directeur du numérique, de mettre ce numérique en débat à travers l'organisation, notamment de conférences sur le territoire. Donc, il y en a déjà eu, puisqu'on a organisé une semaine, modestement, une semaine du numérique sur Échirolles, dans lequel on a pu faire intervenir, poser. On a eu un débat sur la question des logiciels libres, on en a eu un sur la question de l'empreinte écologique du numérique, on en a eu sur les questions d'obsolescence programmée, avec des intervenants. Et ben, finalement, ces sujets-là, on souhaite les mettre en débat pendant toute la durée du mandat, réorganiser finalement des conférences avec des intervenants, des experts et des personnes qui sont un peu référentes dans, de certains sujets, mais également avec la participation des citoyennes et des citoyens. J'ajoute que par ailleurs, dans ce travail-là, on a recruté notamment 4 conseillers et conseillères numériques qui agissent au quotidien dans les équipements de la ville, que ce soit les bibliothèques, les maisons des habitants dans les quartiers ou dans tous les équipements ou événements qui sont organisés par la ville, au contact des citoyens pour lutter contre cette fracture numérique, et que ça passe d'un côté par de l'accompagnement à l'utilisation parfois, ça j'ai envie de dire c'est la partie un peu évidente, mais ça passe par beaucoup d'autres actions, et par exemple sur la sensibilisation par rapport à un certain nombre de questions, et notamment la question de la protection des données et la question du consentement. Voilà, donc pour nous, la question, je dirais, démocratique et numérique, elle est extrêmement prégnante. On essaye de la prendre, si vous voulez, par tous les leviers en même temps, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit auprès des habitants. Et le numérique est à la fois un accompagnement pour plus de démocratie locale, mais aussi un sujet de discussion en tant que tel.
Oui, c'est intéressant, c'est presque à l'opposé finalement, où on voit dans les pratiques internes, il y a une volonté de transparence un peu des outils. Là, on voit clairement destination des citoyens et citoyennes que vous en faites, il y a une vraie volonté d'en faire l'objet politique que c'est, hein, en réalité, ce qu'on voit tous les importants enjeux que ça peut représenter. Et quel accueil est fait par la population ça marche, pour dire les choses très prosaïquement? Ou c'est encore naissant
Alors, si je peux dire un mot simplement
bien
sur
sûr.
Les conseillers numériques pour compléter, ce qui est très intéressant dans la façon dont les choses sont organisées ici, c'est que donc ces 4 conseillers numériques qui interviennent donc dans les bibliothèques qui dépendent de la direction des affaires culturelles, à la maison des associations qui dépend de la vie associative, dans les maisons des habitants qui dépendent du CCAS, sont rattachés en fait à la direction de la stratégie numérique. Ça veut dire que ces 4 conseillers numériques sont porteurs de ce schéma directeur qui a été voté début novembre, qui connaissent très bien, auxquels ils ont été formés dès leur arrivée, et que donc, même s'ils répondent en priorité aux besoins, bah, typiquement dans les maisons des habitants, aux besoins autour de l'accès aux droits, ça peut être des problématiques autour de la lecture dans les bibliothèques et tout ça, ils sont porteurs de ces orientations-là. Et donc, quand ils vont proposer des outils aux habitants, ils vont plutôt proposer des logiciels libres parce que ils s'inscrivent dans ce schéma directeur. Et c'est très, très intéressant, et ça montre tout l'intérêt de travailler en transversalité. Ça veut dire que le rayonnement, il est pas simplement limité à l'interne, mais il est y compris, il touche y compris les citoyens et les citoyennes et les associations, puisque donc on propose une aide à la création de sites web pour nos associations typiquement. Les sites web reposent sur WordPress, on explique que c'est un logiciel libre, enfin bref, on essaie de à la fois de coordonner les actions pour s'assurer qu'on est bien présent sur le territoire et qu'on est aussi efficace que possible, et en même temps d'être dans une cohérence globale sur l'approche qu'on peut avoir, que ce soit au niveau des agents, des citoyens ou des associations.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que de ce que vous me dites, on sent que à Échirol du moins, c'est vraiment compris comme relevant de la mission de service public de la municipalité que de permettre aux habitants et aux habitantes de s'émanciper aussi du point de vue de leurs outils numériques, d'en devenir davantage maîtres, davantage souverains et souveraines sur leur technologie, parce qu'on sait que un nombre important de libertés passe par les outils informatiques, et donc l'enjeu d'avoir de liberté informatique est d'autant plus important. Et je trouve intéressant cet engagement de la ville, et assez rapidement finalement après la mise en œuvre du schéma directeur, d'être acteur, de se donner cette mission de faciliter cette émancipation. Et ça me paraît, et ça se marque notamment, parce que il faudra peut-être que je précise, vous avez évoqué Peertube, qui est donc un projet logiciel libre porté notamment par l'association Framasoft, hein, qui se veut une alternative, mais plus encore finalement à YouTube, et donc voilà, qui permet notamment la diffusion vidéo. Et ça pourrait presque paraître secondaire, mais en fait c'est très important dès le départ d'avoir ce genre d'alternative et de les mettre en œuvre. Et je trouve que c'est révélateur aussi du sérieux finalement peut-être avec lequel vous menez vos politiques publiques. Alors, je vois que le temps avance. Je voulais revoir, peut-être revenir avec vous, et peut-être ça permettra un peu de boucler finalement notre conversation, parce qu'en introduction, vous faisiez beaucoup de parallèles avec le fait que cette politique publique vers le logiciel libre s'intégrait plus globalement dans un souci aussi d'une action pour plus de justice sociale, pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Peut-être, voilà, voir... Quel lien à nouveau vous faites entre logiciel libre et enjeux, peut-être voilà, environnementaux, entre logiciel libre et justice sociale, mais finalement refaire une synthèse de ce que vous avez pu évoquer par-ci par-là dans notre échange.
Oui, moi je peux dire quelques mots. Effectivement, donc la question, nous, ce que l'on porte de la justice sociale ou de l'action sociale en général, ou de ce qu'on appelle les transitions, qu'elles soient démocratiques ou les transitions énergétiques, sont extrêmement importantes. Et c'est ce que je disais effectivement au début, c'est que le logiciel libre était pour nous l'outil qui semblait le plus à même finalement de nous permettre de répondre à ces enjeux-là. J'en ai déjà détaillé un petit peu sur la question démocratique, et on voit bien comment le logiciel libre peut accompagner là-dessus. Sur la question environnementale, ne serait-ce que la possibilité de pouvoir lutter contre l'obsolescence programmée, de pouvoir utiliser des machines des PC qui sont un peu plus âgés parce que on peut installer dessus un système d'exploitation un peu plus léger, etc. Et je vais faire un parallèle avec le passage un peu forcé à Windows 11 que certains ont pu connaître récemment, est aussi quelque chose d'assez concret finalement sur la question environnementale et dans la lutte notamment contre l'obsolescence programmée. On pourrait dire que c'est une petite chose, mais j'en veux dire que c'est assez représentatif finalement de pourquoi le logiciel libre nous permet d'accompagner finalement. La question environnementale, elle est très importante pour nous, majorité municipale à Échirolles, et on la porte sur tous les sujets et de façon complètement transversale. Et il n'était pas question pour le numérique de passer à côté de cette question-là, d'abord parce qu'il a une responsabilité, notamment dans la consommation énergétique et dans les rejets de CO2, et que faire le choix d'héberger dans des serveurs, dans nos propres serveurs d'abord, ou dans des serveurs qui sont localisés en France, par exemple, sont pas un choix anodin, par exemple, en termes d'empreinte énergétique, et que on avait d'abord une responsabilité dans les choix qu'on faisait, dans les choix en termes de matériel, je pense notamment aux smartphones, je pense notamment dans la réutilisation des outils. Et ensuite, l'action du numérique dans la transition énergétique, c'est aussi pour nous ce qu'on appelle communément l'accompagnement au changement des pratiques. Vous avez des initiatives citoyennes sur le territoire échirolois qui émergent, notamment un groupe qui s'appelle Je donne sur Échirolles, qui permet en fait de s'échanger tout simplement des objets dont on n'a plus l'utilité et qui sont encore parfaitement fonctionnels et qui peuvent être échangés avec le voisin. Et ce groupe-là finalement fonctionne via les outils numériques. C'est un exemple, il y en a d'autres, et nous souhaitions finalement que ce que notre action en termes de numérique puisse accompagner, j'ai envie de dire, ce changement des pratiques. Je pourrais donner d'autres exemples, par exemple sur la question des repair cafés, sur comment est-ce qu'on peut lutter contre l'obsolescence programmée en accompagnement à la réparation des objets. C'est quelque chose qu'on souhaite accompagner fortement sur la durée de ce mandat, ou sur le choix qui est fait dans notre matériel de choisir des objets qui sont réparables ou qui sont bénéficiés d'un certain nombre de labels, d'indices de réparabilité afin de ne pas avoir à renouveler systématiquement. Pour ce qui est de la question sociale, on l'a porté effectivement sous l'angle de l'inclusion numérique. Échirolles est une ville populaire qui connaît des quartiers populaires. Il faut savoir que en France, le non-recours notamment aux prestations sociales dont les gens peuvent bénéficier est plus important que le chiffre de la fraude qu'on a tendance à nous mettre en permanence en avant. et que cette question du non-recours, elle est extrêmement importante dans l'action sociale, parce que ce sont des droits auxquels les gens que les gens ont et dont ils ne bénéficient pas. Souvent, c'est parce que il y a un certain nombre de démarches qui doivent se faire maintenant obligatoirement en ligne, hein. Moi, je vais vous donner un exemple qui est tout bête, mais en ce moment, il y a deux services publics qui sont en train de fermer, deux services publics d'État qui sont en train de fermer sur le territoire échirolois. Un qui est en train de fermer, c'est la trésorerie, un qui est en train de réduire son offre au public, c'est la poste. Et ben, ce sont des lieux de démarche qui sont extrêmement importants pour les habitants et habitantes de la ville. Et nous, on souhaite accompagner pour que finalement nos habitants puissent continuer à faire leurs démarches. Et comme bien souvent on les renvoie sur des outils qui sont numériques, et ben nos conseillers et conseillères numériques les accompagnent pour pouvoir faire ces démarches et bénéficier de leurs droits. Voilà, c'est des actions qui sont finalement peut-être très concrètes, mais qui sont extrêmement importantes sur un territoire comme le nôtre.
Et on voit comment ça peut recouper la question effectivement de la liberté informatique. Merci, parce que vous avez été en fait très synthétique sur une question extrêmement large. J'avais pas mesuré à quel point ma question était large. On arrive vraiment sur la toute fin du temps qu'on nous avions pour notre échange. Est-ce que en une minute maximum, Aurélien ou Nicolas, vous auriez un point que vous souhaiteriez mettre en avant, soit qu'on a abordé, soit qui vous paraît essentiel de notre conversation?
Moi, je peux dire très rapidement, c'est vrai que on a beaucoup abordé le logiciel libre sur la question des valeurs, et j'ai commencé là-dessus, elle était extrêmement importante. Mais je dirais que le choix du logiciel libre pour nous, c'est d'abord le choix de rendre le service, de rendre un service public le plus avec une qualité la plus haute possible auprès de nos habitants. Parce que pour nos collectivités territoriales, finalement, c'est vraiment ça qui est le plus important, c'est la qualité de service qui est rendu aux habitantes et aux habitants. Et je dirais que le logiciel libre, c'était pour nous vraiment une évidence dans le choix du service public.
Merci beaucoup. Nicolas Vivant ?
Oui, alors une chose que j'aimerais dire, c'est à quel point, quand on s'engage dans une démarche telle que la nôtre, l'échange d'expérience, l'échange entre communes, est important pour réussir. On a quand même une difficulté quand on se lance dans ce type de démarche, c'est que trouver l'information, notamment sur les logiciels métiers par exemple, est pas toujours simple. Alors on a des choses comme le socle interministériel des logiciels libres, mais ou sur le site de la Dulacte également, mais souvent ce sont des listes de logiciels possibles. Mais choisir parmi ces logiciels possibles n'est pas toujours simple. Et ce qui nous sauve, c'est les échanges entre professionnels, les échanges entre élus au sein des collectivités territoriales. Et donc je crois qu'il faut qu'on saisisse de chacune de ces opportunités. Alors typiquement, il y a très bientôt l'Assemblée Générale de la Dulacte, et je crois que ce sont les 20 ans de la Dulacte cette année.
La Dulacte, l'association de promotion du logiciel libre pour les collectivités, pour faire court.
Exactement. Et donc, c'est l'occasion de rencontrer des collègues d'autres communes et de pouvoir échanger. Voilà. Cet échange d'informations est vraiment très important. Et la ville d'Échirolles se tient évidemment à la disposition des autres communes qui pourraient choisir de une démarche comparable ou simplement qui sont à la recherche d'informations sur la migration, la mise en place d'un logiciel et tout ça. On tient vraiment à cet échange avec les autres communes parce que quand on est dans les logiciels libres, on peut parfois se sentir un peu seul dans notre démarche, alors qu'il y a de multiples expériences dans de multiples collectivités territoriales et que les partager, ça permet de s'inspirer des succès, des échecs, et d'avancer sur ce sujet. Donc voilà, moi, un truc dont on a peu parlé, mais qui me semble très très important, c'est la collaboration et l'échange intercommunal sur ce sujet.
Absolument, et c'est vrai qu'on parle parfois de mutualisation, et c'est bien de mutualiser des points de vue techniques, mais mutualiser aussi et échanger sur les savoir-faire, sur les expériences, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Et puis l'April avec Libre à vous et ce genre d'émission comme nous avons aujourd'hui est une modeste pierre dans cette perspective. Écoutez, Aurélien Farge, Nicolas Vivant, pour la commune d'Échirolles, un grand merci pour ce temps que vous nous avez accordé. C'était très intéressant et j'espère que ça aura plu à nos auditeurs et auditrices. Et je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux de réussite pour la mise en place de votre politique publique pour le logiciel. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée.
Merci beaucoup. À vous. Au revoir.